Dans la perspective de Nietzsche, d'où viennent les mots communs? D'où viennent le fait que nous utilisons les mots dans le même sens? D'où viennent... Alors ça, c'est un point très important, hein. Là, je quitte pas le cours, j'essaye d'expliquer l'importance du langage pour comprendre la suite des textes. Je reviens à Nietzsche. D'où viennent que les mots, le sens des mots, nous apparaissent comme communs? Ça, c'est un point très important, parce que derrière la notion de commun, il y a la notion d'universel, hein. Il y a des définitions, vous pouvez ouvrir des dictionnaires, il y a des définitions qui sont partagées par d'autres, etc. Un des grands enjeux de toutes ces questions, c'est le problème de la définition, de l'intelligibilité des choses. Là, en l'occurrence, du corps sexué, de la notion de mariage, de la notion de masculinité. C'est une question de mots, finalement, du sens des mots. Dans quel sens on utilise les mots? Et la réponse de Nietzsche à cette question, c'est dire les mots sont communs parce que les hommes, les individus désirent survivre. Alors vous allez me dire, je vois pas bien le lien entre le fait que les mots soient communs, que le sens des mots soit commun, l'usage des mots soit commun, et le fait que les hommes aient le désir de survivre. Réponse de Nietzsche, les hommes désirent survivre. Et donc, ils désirent être dans des relations les plus paisibles possibles avec les autres hommes. Donc la société, pour éviter la guerre civile, pour éviter l'affrontement de tous, la société exige des normes communes. La société, d'une certaine manière, impose des normes, et notamment des normes qui touchent le langage, la désignation des choses. Imaginez la négociation avec votre banquier si... vous n'utilisez pas les mots dans le même sens que lui. Qu'est-ce que vous allez pouvoir négocier? Ben rien. Parce que vous allez croire que vous êtes d'accord alors que vous utilisez les mêmes mots dans des sens différents. Donc en fait, la vie commune exige que les membres d'une société désignent les mêmes choses par les mêmes mots. D'accord? Donc en fait... D'où vient le caractère commun des choses? De leur imposition sociale. Voilà ce que dit Nietzsche. Alors vous avez remarqué ici, pour l'instant, il n'y a aucun rapport entre les mots et ce que je connais de la réalité, justement. Autrement dit, tout l'aspect commun, universel du sens des mots, repose sur quoi? Repose sur le processus de socialisation. Or, c'est évident que l'usage que nous avons des mots repose sur un processus de socialisation. C'est même, on le voit même dans l'expression, la langue maternelle. La langue maternelle, c'est bien la langue que j'ai apprise grâce à ma mère et à ceux qui étaient mes proches, qui étaient membres d'une société, et qui peu à peu m'ont appris à utiliser les bons mots dans les bonnes circonstances, les bons mots... pour désigner des objets communs à d'autres. Bref, il y a eu toute une correction interne du langage. Vous voyez ? Il y a eu toute une disposition sociale qui, peu à peu, a façonné mon usage des mots, des conventions sociales. Bon. Qui rend possible la vie commune. Et donc pour Nietzsche, les mots communs et qui sont communs, je répète, simplement en raison de leur imposition sociale, par désir de survivre, de l'individu et la paix de la société, pour Nietzsche, les mots communs ont fini par faire croire qu'il y avait dans la réalité des essences communes. Vous voyez le complet retournement. Hein. Les mots communs ont fini par, peu à peu, faire croire que dans la réalité, il y avait des essences qui existaient, que le fondement de la communauté des sens, du sens des mots, le fondement du caractère commun du sens des mots, était dans le réel. Alors que ce n'était qu'une imposition sociale. Vous voyez hein, la place de la sociologie ici, en fait. Tout est fondé sur la société, sur la culture. Il n'y a pas de nature humaine, il n'y a pas d'ordre dans le réel. Le réel, qu'est-ce que c'est? C'est une multitude de choses en devenir, de sensations. Donc pour ça, hein, Dieu dit et cela est, l'homme dit et cela est, non pas cela existe ou cela se met à exister matériellement, mais c'est parce que je dis, dans un dire social lié à des conventions, que peu à peu, je finis par projeter sur le monde, largement chatoyant, chaotique et dispersé, je projette sur ce monde un ordre lié au langage. Et peu à peu, je finis par voir les choses, effectivement, comme étant structurelles les unes par rapport aux autres, comme ayant une signification, etc. Mais tout cela, ça vient de la projection sur le réel d'habitudes sociales. C'est ça les pratiques discursives. Hein. Pratiques discursives, vous voyez, ici pratiques parce que peu à peu, je me suis accoutumé de par imprégnation depuis ma naissance, même avant, hein, d'être totalement bercé par ce système de signes qui ne sont pas utilisés dans n'importe quelle situation. Il y a une rectitude dans l'utilisation des termes. Et quand l'enfant les utilise mal, soit on lui dit « tu t'es trompé », soit on lui dit même « tu as menti ». Et en général, il est puni, donc il se rend bien compte qu'il a intérêt à utiliser les termes à bon escient de manière correcte, sinon on va lui dire qu'il a menti. Et le fait de mentir met en danger la vie sociale, donc la confiance réciproque, etc. Donc, tout ça est une imprégnation très forte, qui évidemment, je répète, hein, est projetée sur le réel et met en ordre le réel. Et donc, l'ordre du réel, l'ordre d'intelligibilité de la réalité, en fait, est fondé sur le discours, sur la pratique discursive. Mais une pratique discursive qui n'est pas simplement individuelle, hein, c'est pas une vision autistique de l'individu, là. C'est lié à la culture, c'est lié à la société. C'est pour ça que c'est politique et social, hein, ces pensées-là. C'est pas moi qui décide que ça, je vais l'appeler ça. Bon, on peut s'amuser 5 minutes à changer le sens des mots, mais je veux dire, on ne peut pas vivre vraiment comme ça. Donc il y a une sorte de pression sociale liée simplement au désir de survivre et de coexister pacifiquement avec autrui qui peu à peu, en fait, me fait croire qu'il y a une intelligibilité dans le réel. Le mot ici essentiel, c'est la croyance. C'est une croyance. Oui. Ce qui était vu comme une sorte de perception immédiate du réel qu'on va pouvoir ensuite déployer dans une métaphysique, tout cela est en fait l'objet d'une croyance. Mais d'une croyance liée à une accoutumance, à une manière de vivre, à des habitudes. Vous voyez, c'est une croyance incarnée. Hein. C'est pas juste un truc comme ça, j'y crois pas, non. Et c'est tellement, on est tellement imprégné par ça que pour Nietzsche, évidemment, ça ne nous apparaît pas du tout comme une croyance. Ça nous apparaît comme évident, comme allant de soi. Et donc, vous voyez que là, il y a une sorte de retournement complet de la métaphysique, en fait. Parce que le réel, en tant que tel, n'a pas de sens, n'a pas d'intelligibilité, n'a pas de finalité, ça on l'a vu hier. Et donc, tout ce que nous pouvons saisir comme finalité et intelligibilité dans le réel, spécialement dans le réel humain, spécialement dans le corps humain, tout cela est une construction sociale. Et le mot pratique discursive, ça renvoie en fait à ça. Vous voyez ? Donc, dans ce cas-là, on comprend que tout ce qui relève de l'ordre humain dont on pourrait dire la clé de voûte, enfin un des aspects les plus importants, évidemment la différence des sexes, tout ce qui relève de l'ordre humain, il s'agit d'en faire la généalogie, et en faire la généalogie, c'est montrer comment c'est une construction sociale.